dit non, et chacun sait que la Bretagne ne court aucun risque d'être bombardée pendant la Deuxième Guerre mondiale, demander à un Brestois. Mais bon, le centre de traitement de la BNCI n'a pas été bombardé. Il est resté l'un des plus grands centres de traitement mécanographique d'Europe, certainement, dans les années 30 et 50. Il est resté le grand service de traitement des titres de la BNP ensuite, jusqu'aux années 90. Et donc là, vous avez une toute autre organisation. C'est un grand centre. Tout ce qui est traitement des titres aboutit là. Et il se trouve que la BNCI a entrepris de se réorganiser entièrement sous une nouvelle direction. Au début des années 30, la BNCI est née de la faillite de la BNC. Et elle a reçu comme directeur un intellectuel, un professeur d'économie à l'université de Caen, qui avait une expérience bancaire, qui avait une certaine expérience de cabinet ministériel, un type extraordinairement entreprenant, qui s'appelait Alfred Pause, et qui a commencé par resserrer les crédits, le personnel de la banque, l'implantation de la banque, tout ça a été diminué de moitié entre 1932 et 1934, et il est reparti dans une politique d'expansion, mais en réorganisant complètement la banque, pour la rationaliser et s'assurer d'un bon contrôle des coûts, des prix de revient des opérations et des coûts des process. Et le principal aspect de cette réorganisation, c'est la distinction forte entre le travail commercial qui se fait dans les agences et le travail d'administration comptable qui se fait dans des centres administratifs régionaux. Donc l'œuvre de ce monsieur Alfred Pause a consisté à retirer tout ce qui était comptabilité, mécanique, machinerie des agences et à les mettre dans une demi-douzaine de grands centres administratifs régionaux à Paris, à Bordeaux, à Lyon, etc. Et à réorganiser tout cela suivant les principes qui s'accordent avec ces machines, avec le traitement par lot, avec une organisation rationnelle du travail. Et d'année en année, on voit les progrès du rendement, de la rentabilité, de la baisse du coût des opérations. C'est très suivi, c'est très compté. Alors dans quelle mesure les gens... Alors il a créé un... Alfred Pause a créé un corps d'inspection de la banque, l'inspection générale de la banque, formé d'experts de très haut niveau, qui ont une énorme autorité sur la banque, qui se font aussi beaucoup d'ennemis, parce que c'est eux dont le métier consiste à aller voir chaque fois qu'il y a une irrégularité quelque part au fond d'une agence. Et c'est cette inspection générale du travail qui a recommandé l'adoption de machines à carte perforée Bull en 1938. Et c'est elle aussi qui compte les avantages progressifs de cette mécanisation. Mais comme c'est la seule source dont on dispose pour évaluer les progrès, et comme la BNCI a plutôt bien évolué économiquement, on a tendance à leur faire a priori confiance. Donc c'est intéressant parce qu'on a un corps très identifié de prescripteurs, de méthodes d'organisation et de mécanisation. On voit qui décide, comment on va se mécaniser, comment on va s'informatiser et avec quel matériel. Il le dit, il y a des rapports avec des tableaux, ils font des benchmarks en 1938 entre les machines à carte perforée et les machines comptables, à l'avantage des machines à carte perforée, et ensuite ils font des benchmarks entre Samas, IBM et Bull. C'est très intéressant, c'est une source fantastique pour l'histoire de l'informatique. Et on les voit faire la même chose à la fin des années 50 pour les premiers ordinateurs. Donc ça c'est un schéma qui illustre très bien le batch processing, le traitement par lot. Je l'ai cyniquement pris à notre ami Alain Le Seur de Bull, à tout seigneur, tout honneur, et j'en remercie. Mais si j'avais eu le temps, je vous aurais mis un des tableaux de réorganisation des process bancaires que j'ai trouvé dans les archives de la BNCI. Mais ça aurait été moins lisible que ça. Alors, je fais un bond dans le temps, mais pas vraiment dans la logique de l'organisation, puisque là, on a un grand centre informatique des années 60. Il se trouve que c'est à la Banca Nazionale del Lavoro à Rome, la cinquième banque italienne, qui est maintenant une filiale de BNP Paribas, la filiale italienne de BNP Paribas. La BNL, la Banca Nazionale del Lavoro, a été l'une des quelques banques dans le monde à s'équiper d'un Bull Gamma 60. Donc le CNEP, le comptoir des escomptes de Paris, la Banque Nationale et des Lavoraux, et je crois une banque belge, non c'est les PTT belges qui sont équipés de Gamma 60. Pendant ce temps-là, la BNCI à Paris s'équipait du premier gros IBM 705. Enfin, il y a eu deux gros IBM 705, deux machines parmi les plus grosses machines de gestion du monde à l'époque, à la fin des années 50. Un à la BNCI, un au Crédit Industriel et Commercial, au CIC. Donc, ceci pour dire que quand on fait une étude comparative, on s'aperçoit que les banques françaises ont été parmi les toutes premières au monde à s'informatiser, à s'équiper d'ordinateurs. Elles avaient été en retard dans les années 20 par rapport aux banques allemandes ou anglaises ou néerlandaises pour leur mécanisation. Elles ont rattrapé leur retard dans les années 30 en s'équipant massivement de machines à cartes perforées, les usines comme celles de Dinan ou de Lyon ou de Paris. Et c'est assez naturellement qu'au début des années 50, ces grandes banques ont ajouté à leurs équipements mécanographiques des petits calculateurs électroniques comme le Gamma 3 de Bull ou l'IBM 604 et d'autres. Et donc elles sont déjà préparées par leur organisation centralisée du traitement et par leur accoutumance à l'électronique à travers ces petites machines, à se convertir aux gros ordinateurs dès le milieu des années 50. Et on voit en 1957, 58, 59, les plus grandes banques françaises, et même des moins grandes, acquérir des ordinateurs, Bull, IBM, SEA et autres. Et aux États-Unis, c'est 1960, 1961, pas avant. Eh oui. Si, la Bank of America. La seule exception que j'ai trouvée, la Bank of America qui a acheté un IBM 702 en 1955, mais c'est une machine qui menaçait de tomber souvent en marche. Il a fallu remplacer la mémoire plusieurs fois. Enfin bon, la Bank of America a essuyé les plâtres. Ça lui a aussi permis de développer ou d'aider à développer le code de lecture des chèques optiques et la machine à traitement ERMA. Mais autrement, les grandes banques américaines, j'ai vraiment fait une recherche, ça, je n'y croyais pas. Je cherchais des banques américaines qui se seraient équipées d'ordinateurs avant les Français, j'en ai pas trouvé. Les Anglaises, c'est 1900.